18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, les informés, nouvel horaire à noter, bien précieusement de 18h à 19h30, chers amis auditeurs partout en France, vous êtes fidèles, nombreux à nous écouter, merci de votre fidélité. La rentrée s'est bien déroulée ce matin, tiens, on va en parler tout à l'heure, je vais ouvrir l'antenne, alors au sommaire de ce qui vous attend, tout d'abord l'interview de la secrétaire générale de l'Association des élus de France pour parler d'un ouvrage. Ensuite, tout à l'heure, au sommaire, vous savez, eh bien c'est vous, auditeurs. Auditeurs 01 53 48 3000. Plusieurs sujets que je mets sur la table, sur le grill. Un, d'abord, comment s'est déroulée la rentrée scolaire de vos enfants? Deux, j'aimerais vous poser la question sur cette rentrée scolaire avec l'inflation. Et puis surtout, comment gérez-vous votre budget? Et on écoutera l'interview du président Emmanuel Macron tout à l'heure, qui a posté ce matin une vidéo sur TikTok où il fait référence au harcèlement, contre le harcèlement scolaire. On reviendra sur, évidemment, donc il appelle les enfants victimes de harcèlement à parler, à en parler davantage. Et puis, nous aborderons les trois sujets qui ont retenu notre attention avec les face-à-face. La persécution des Ouïghours par Pékin, ce qu'ils font retenir du rapport de l'ONU qui épingle justement la Chine. Ensuite, nous parlerons de l'inflation, de cette rentrée scolaire, du budget géré par vous-même. On parlera également aussi de l'épisode concernant de la fuite de l'imam Ekoussen, où le fils a décidé de s'emparer de la parole et dit, j'ouvre les guillemets, « Mon père est en Belgique, ça m'étonnerait !» Je referme les guillemets. Et bien, on en parlera tout à l'heure. 01 53 48 3000, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler pour la rentrée scolaire. Maintenant, le standard est ouvert. Nous vous attendons, ça se passe à 18h07 environ, où je vous accueillerai partout en France pour venir nous dire comment s'est déroulée votre rentrée scolaire, mais surtout avec quel budget et comment gérez-vous le budget de la rentrée scolaire, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, oui, parce que l'inflation aujourd'hui, elle prend de l'ampleur. Le 18h30, c'est le quoi de neuf? C'est le grand Pascal Boniface qui sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de la guerre en Ukraine, mais surtout la grande question qu'on se pose, chers amis, jusqu'à quand cette guerre va-t-elle durer? On en parlera tout à l'heure. Et l'émission, vous le savez, c'est jusqu'à 19h30. C'est parti, c'est tout de suite et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan. Les informés. L'interview.
Et l'interview, on démarre cette émission, les informés sur Beurre FM avec l'Association des élus de France et celle qui incarne l'association, la secrétaire générale, Madame Naïma Sifer. Bonjour Madame la secrétaire générale.
Bonjour Adil Farkan.
Comment allez-vous tout d'abord?
Très bien,
bon,
parfait.
Tout se passe bien, cette rentrée scolaire?
Oui, super. Un peu sport, mais c'est la rentrée, c'est normal.
Mais pourquoi un peu sport? C'est la course?
Oui, c'est un petit peu la course entre les enfants qui repartent à l'école.
C'est vrai.
Juste les projets à côté, etc. Donc,
voilà. J'attends les auditeurs justement pour en parler au 01 53 48 3000. Je disais que le standard est ouvert. Je vous attends, vous avez la parole. Je vous attends partout en France. Chère Madame la Secrétaire Générale, je voudrais... alors, il faut bien coller, évidemment. Il faut qu'on vous attende davantage à l'antenne. Donc, je vous demanderai évidemment de couper le haut-parleur, tout ce qui est kit main libre, etc. Et de bien parler devant le combiné de votre portable.
Oui.
Madame
oui.
la secrétaire générale, Madame Naïma Sifer, tout d'abord, comment se porte l'Association des élus de France aujourd'hui? Parce que je sais que vous êtes sur des projets, notamment issus de la diversité. Parce que l'Association des élus de France, c'est des élus issus de la diversité.
Pas que, Adil Farkan, on a des élus de la diversité, effectivement, mais pas que. Cette image qu'on veut pas. Il n'y a pas que des élus de la diversité, c'est vraiment tous les élus confondus. Donc, maires adjoints, des maires de la ruralité, comme dans de grandes villes, avec des sénateurs, des députés. Donc, c'est ce qui constitue notre association.
La rentrée des élus, je crois qu'elle est très prochaine. Ça se passe le 21 septembre.
Tout à fait. On donne un grand rendez-vous à tous les élus au Salon Innopolis, à Porte de Champéret.
Que va-t-il se dérouler précisément durant cet événement, la rentrée des élus?
Des tables rondes, des conférences avec des experts, des élus, qui viendront parler de sujets importants que les lieux est confronté, dont les lieux est confronté chaque jour. Voilà.
Alors, il y a un ouvrage qui fait actualité auprès de l'Association des élus de France. C'est justement La promesse républicaine. Je crois que c'était l'association qui est incarnée par les différents élus. Je crois que cette La promesse républicaine était importante justement pour vous, cet ouvrage.
Oui, exactement.
Pourquoi ?
C'est un ouvrage qu'on a écrit, car le pays va mal et donc il nous faut agir. Donc la responsabilité d'un élu local va au-delà de l'engagement pour ses administrés. On est comme les petits garagistes de la République.
Les petits garagistes de la République. Quand vous dites la promesse républicaine, qu'est-ce que vous voulez dire évidemment par là ? Quel sens vous lui donnez ?
Notre association a été créée dans le but justement des raisons pour lesquelles, tout naturellement, il nous a semblé opportun de coucher justement sur papier la préoccupation des concitoyens. Mmh. Et justement, esquisser les pistes pour contribuer à résorber les fractures. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est fracturé. Donc, une quarantaine d'élus et des personnalités qualifiées ont contribué à l'écriture de cet ouvrage indépendant, avec des sensibilités politiques et des territoires respectifs. Voilà. Donc, il y a eu Plantu, Blanchard, Bianco, Dib. Se sont tous mobilisés pour faire justement entendre nos voix.
Entendre votre voix. Alors, la promesse républicaine, quelles sont vos propositions justement et dans cet ouvrage et notamment, qu'entendez-vous, comment comptez-vous faire bouger les lignes ?
Eh bien, déjà, on a fait un diagnostic. L'élu de terrain, justement, c'est nous qui sommes à portée de baffe. Hein. Donc, du coup, on a fait un diagnostic. On a expliqué un petit peu. Il y a différents sujets, la sécurité, l'éducation, l'handicap. Il y a énormément de sujets qui ont été écrits par les élus et qui ont fait un diagnostic et apporté justement des solutions. Et c'est pour ça que lors de mon invitation lundi à l'Élysée, j'ai tenu à ce que le président de la République ait justement ce livre comme un livre de chevet. C'est ce que je lui ai dit justement ce lundi.
Voilà. Qu'est-ce qui vous a quel était l'échange avec le président de la République, Emmanuel Macron, lorsque vous lui remettez l'ouvrage La promesse républicaine ?
Il m'a dit expliquez-moi. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit que c'était une association avec plus de 200 élus qui ont écrit ce livre, justement, pour que vous sachiez un petit peu les difficultés qu'on rencontre, nous, au quotidien, en tant qu'élus de terrain. Et j'aimerais, Monsieur le Président, que vous le lisiez. Et il m'a dit promis. Donc j'espère que Monsieur le Président le lira. Voilà.
Qu'attendez-vous, justement, de lui ?
Qu'il nous reçoive. Qu'il nous reçoive, nous.
Qu'il reçoive les 200 élus ?
Non. Non, une délégation d'élus, ce serait bien pour qu'on puisse justement porter notre voix, justement, voilà, pour porter notre voix et avoir un échange avec lui, voilà.
Parce que je crois que l'envie de faire avancer la question républicaine est importante au sein de votre association.
Oui, tout à fait. L'AES et ses élus sont mobilisés justement pour l'intérêt supérieur de la France.
Dites-moi, la promesse républicaine, finalement, pour celles et ceux qui vous écoutent, ça veut dire quoi ?
La promesse républicaine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, justement, on promet, justement, d'avancer sur tous les sujets qui nous touchent au quotidien. Voilà, aujourd'hui, on est rencontré à beaucoup de difficultés. La sécurité, on est confronté à la désertification médicale, à beaucoup, beaucoup de choses. L'éducation, il y a énormément de choses à faire sur pas mal de sujets. Et du coup, nous, les élus, on a tenu au-delà du clivage politique, et travailler en bonne intelligence et être ensemble. Parce qu'il n'y a que collectivement qu'on arrivera à faire avancer des choses.
Qu'est-ce que vous avez envie d'adresser comme message, Madame la secrétaire générale de l'AUF ?
J'ai envie d'adresser un message déjà tout particulier à tous les élus. On leur donne déjà rendez-vous le 21 à Innopolis, au salon Innopolis, à Porte de Champéret. On y sera tous. Venez échanger avec nous, discuter. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera.
Le rendez-vous est noté. C'est le 21 septembre, justement.
Merci, Adil.
Merci à vous, Naïma Siffer, la secrétaire générale, Madame la secrétaire générale de l'Association des élus de France, l'AEF. Merci, Naïma Siffer.
Je vous en prie, merci beaucoup Adil.
Et j'espère que
bientôt Adil pour le projet Rencontre de la diplomatie culinaire.
Oui.
J'espère venir en discuter sur votre plateau.
Bah avec plaisir, je vous recevrai comme l'année dernière d'ailleurs.
Voilà, tout à fait.
Vous êtes la bienvenue, absolument.
Merci Adil. Au revoir.
Allez, au revoir. Tout de suite, vous savez, je vais lancer le sujet. concernant vous, les auditeurs. Partout en France, je vous attends. Alors, il y a la rentrée scolaire. D'abord, je voudrais vous entendre venir partager justement ce qui s'est déroulé ce matin avec vos enfants, les émotions. Certains ont craqué émotionnellement, c'est-à-dire que voilà, ils ont lâché quelques larmes. D'autres, c'était évidemment le début d'une belle aventure, la primaire. D'autres, c'est le collège, la sixième. Bref, venez partager, dites-nous comment ça s'est passé pour votre enfant. 0153483000. Mais surtout, on va écouter, tiens, Emmanuel Macron, le président de la République, où il fait référence au harcèlement scolaire. Regardez, c'était ce matin, il a posté ça, il y tenait absolument sur les réseaux sociaux. Écoutez.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Grosse pute, tu es une sous-merde. On m'a dit que j'étais moche, j'étais moche, j'étais dans ta peau et sale, ton corps est vraiment partout.
Ces insultes, ces menaces, ces injures, trop d'entre vous les ont entendues à l'école, les subissent au quotidien. Et quand c'est terminé à l'école, ça repart dans les réseaux sociaux. Ces menaces, ces injures, ce qui vous rend la vie impossible, a un nom, c'est le harcèlement. Je ne veux pas accepter, pas plus que vous, que cette rentrée scolaire de demain, ce soit synonyme de calvaire. Que pour beaucoup trop d'entre vous, près d'un million, nous disent les chiffres, qui ont à subir ce harcèlement scolaire, que pour près d'un million d'entre vous, reprendre l'école signifie retrouver ces injustices, cette violence au quotidien et une vie impossible. Alors face à cela, j'ai vu plusieurs, beaucoup d'entre vous, reçu des lettres. Je me souviens des témoignages de Nelson, Anissa, Hugo et tant d'autres. Nous agissons avec l'ensemble de vos professeurs et toutes celles et ceux qui chaque jour font le nécessaire pour vous éduquer. Les conseillers d'éducation, les directrices et directeurs d'établissements, en les formant d'abord, pour détecter et accompagner, en mettant un numéro en place, le 30-20. Quand vous subissez le harcèlement à l'école, il faut appeler ce numéro. Et puis en agissant avec les associations, en particulier e-enfance, on a mis en place ce numéro 30-18 et l'application 30-18 pour là aussi dénoncer le harcèlement sur les réseaux sociaux. Mais le message que je veux vous passer aujourd'hui, n'acceptez rien. Le problème est du côté de ceux qui vous insultent, vous agressent, vous rendent cette vie impossible. C'est eux qui ont tort. C'est vous qui êtes dans votre droit. C'est vous qu'on doit aider pour vous faire respecter.
Respecter, c'est le mot. Qu'est-ce que vous pensez évidemment de ce discours d'Emmanuel Macron posté ce matin sur les réseaux sociaux où il fait référence au harcèlement scolaire? Dès la rentrée, il avait envie de, évidemment de lancer ce message, un message fort en direction de évidemment toute notre jeunesse. Celles et ceux qui écoutent évidemment ce message, les parents, bien sûr en priorité. Je vous attends au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Je vous attends tout de suite. Le standard est ouvert pour venir partager évidemment ce que vous avez vécu à la fois. Donc cette rentrée scolaire avec vos enfants, mais également aussi a-t-il eu raison finalement Emmanuel Macron de venir tenir ce discours contre le harcèlement scolaire? Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était évidemment ce matin qu'il fallait le poster? Est-ce qu'il fallait attendre un peu dans quelques jours? Est-ce que le moment opportun avec qui coïncide avec la rentrée, eh bien c'était évidemment la meilleure façon d'exprimer ce message? Bon, eh bien venez nous le dire. Tout simplement, venez nous dire comment vous le vivez, ce discours, mais surtout, comment avez-vous vécu la rentrée scolaire de vos enfants ce matin? Et puis, autre sujet aussi, est-ce que cette rentrée scolaire, vous savez, elle rime avec inflation, avec budget, il faut serrer la ceinture? Comment vous gérez votre budget pour la rentrée scolaire entre la rentrée scolaire de vos enfants, parce que je sais que ça coûte cher, les livres, les trousses, bref, les stylos, tout ça, c'est un sacré budget. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous récupérez ceux de l'année dernière? Ou est-ce que vous en achetez encore en plus, c'est-à-dire quelques trucs supplémentaires qui viennent, qui sont à la demande des maîtresses et des maîtres? Comment vous gérez tout cela? 01 53 48 3000. Pub, et je vous attends au standard. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan. 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Les informés, c'est aussi vous. Je vous attends partout en France au 01 53 48 3000. Chers amis auditeurs, comment s'est déroulée cette rentrée? J'imagine que bien, pas bien, enfin, j'aimerais vous entendre, vous écouter, tout simplement, partager vos émotions de vos enfants, de vous-même même d'ailleurs, parents de, les parents, c'est pas simple, hein, quand c'est une première pour les enfants, quand ils rentrent en primaire ou quand ils rentrent en sixième au collège. C'est vrai, c'est le passage, justement. Comment vous l'avez vécu? 01 53 48 3000, je vous attends. Je veux parler avec vous aussi. Le standard est ouvert, je vous attends tout de suite, hein, tout de suite là, maintenant. C'est votre créneau. On parle de l'inflation. Alors, il paraît que 54% des parents comptent maintenir leur budget de fourniture scolaire. Est-ce que c'est votre cas? Bon, j'aimerais vous entendre aussi, puisque le contexte inflationniste, vous savez, actuel, eh bien, les parents sont majoritaires à ne pas prévoir de réduire leur budget de fourniture et d'habillement pour équiper leurs enfants. Ils sont prêts à tout. Prêts à se déchirer, prêts à se plier en mille, paraît-il, pour justement faire plaisir et honorer leur rendez-vous avec leurs enfants. Alors, est-ce que c'est votre cas? Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, parents? Justement, 01 53 48 3000, en ce jour de rentrée scolaire, est-ce que vous aussi, vous faites partie de ces 54%, vous vous pliez en mille pour offrir le maximum de choses, fourniture scolaire, habillement, bref, il n'est pas question pour certains d'entre vous de dire non à vos enfants. Eh bien, je vous attends, 01 53 48 3000. Certains, vous savez aussi, ils ont décidé de remplir, justement, et de récupérer le cartable de leur enfant de l'année dernière. C'est pas facile, hein, c'est vrai que c'est pas facile quand on se rend compte, finalement. On se dit... moi, je sais que dans les quartiers populaires, j'en connais certains qui récupèrent les fournitures de l'année dernière. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Justement, en attendant le 01 53 48 3000, je vous attends au standard pour venir partager avec nous. Tiens, on va avoir un premier auditeur. Il nous appelle d'où? On va le découvrir en direct avec vous. À 18h30, c'est Pascal Boniface qui viendra nous livrer son regard géopolitique sur la guerre ukrainienne. Parce que c'est vrai que c'est un peu confus là en ce moment. Jusqu'à quand va durer cette guerre en Ukraine? Mais surtout géopolitiquement, on a tendance à brouiller les pistes quand même, hein, avec notamment la dernière actu récente du moment. 01 53 48 3000, je le répète pour ceux qui ont du mal à noter le numéro. Partout en France, comment vivez-vous cette rentrée scolaire? Je vous attends. J'imagine que les parents, ils ont des choses à raconter quand même sur Beurre FM. C'est pas possible. Sarah nous appelle d'où? Ah, Sarah, elle a eu un problème, tiens. J'avais Sarah, justement, qui nous appelait et qui a eu un problème de connexion. S'il vous plaît, évitez le kit main libre et le haut-parleur. Parlez avec votre portable collé à la bouche. Ce sera mieux. Warda, bonjour Warda.
Oui, bonjour.
Bonjour, ravi de vous avoir. Quel enthousiasme, Warda. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui anime cet enthousiasme?
Ouais, c'était bien. Je vous écoute là, je suis dans la voiture avec mes enfants et mon mari.
Vous nous appelez de quelle ville?
Alors moi, je suis de 95.
95, quelle ville?
La ville, c'est Goussainville.
Goussainville, ça c'est près de Orly. Alors, comment oui. Vous avez vécu la rentrée scolaire de vos enfants? C'était comment ce matin? Racontez-nous, Warda.
C'était très bien. Moi, j'ai un seul enfant à l'école.
Ouais.
C'était très, très bien. J'étais contente ce matin, pareil que lui aussi.
Ouais.
Avec ses nouveaux portables, ses nouveaux affaires.
Vous lui avez acheté un nouveau portable?
Un nouveau cartable.
Il est en quelle classe?
Il est en CM2.
CM2. Attention, le CM2. CM2, c'est le passage décisif vers la sixième, là.
Ça, oui, c'est ça.
Et alors, il était ému? C'est un garçon, c'est une fille, votre enfant?
C'est un garçon de 12 ans.
Et est-ce qu'il était content de reprendre?
Ah oui, très, très bien. Ah, le CM? Ouais, il a dit.
Il a dit, bah, passe-le moi, mettez-le à l'antenne en direct.
Non, je ne peux pas, c'est là. Tiens.
Bonjour, jeune homme. Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles?
Oussem,
comment tu as vécu cette rentrée ce matin en CM2? T'étais content?
Oui.
Oui? T'as retrouvé tes copains?
Oui, j'ai retrouvé mes copains.
Alors, parmi tes copains, il y a qui? Est ton meilleur pote ou pas?
Ouais.
Ouais. Bon, attention, parce que là, c'est le passage à la sixième. CM2, ça va être... il faut travailler.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai? T'aimes bien l'école?
Oui, j'aime bien l'école.
T'as tout demandé à tes parents en fourniture? Ils t'ont tout acheté? Oui.
Oui.
Bon, bah Wissem, moi je te souhaite de bien travailler à l'école et plein de bonnes choses. Repasse-moi ta maman Warda.
Oui, allô?
Est-ce que vous faites partie de ces 54% de parents qui se plient en mille pour fournir, pour tout fournir à leurs enfants?
Ah bah oui, c'est totalement oui, je suis d'accord.
Ah oui, vous dites rien, vous refusez rien, vous refusez rien à votre fils, vous?
Ah non, j'ai rien refusé, hein. Bon. Et d'ailleurs, il m'a demandé d'y aller avec son vieux cartable de l'année passée. J'ai dit non, hors de question.
Ah bon, c'est vous qui dites hors de question, hein, c'est le comble, c'est le monde à l'envers. Ah, j'aime bien.
Ouais, j'étais prête, quoi.
Vous avez jeté le cartable de l'année dernière, vous lui avez acheté un tout nouveau cartable.
On le garde quand même, ça sert à d'autres choses. Hein.
Bon, ben, j'attends les autres auditeurs pour nous dire justement, est-ce qu'ils sont comme vous? Est-ce qu'ils sont prêts à tout offrir en fourniture scolaire et habillement? Vous lui avez acheté des nouveaux habits, j'imagine, pour la rentrée?
Tout à fait, tout à fait.
Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, ma mère, elle nous achetait des tout nouveaux habits. On arrivait, on était tout beau, tout, c'est vrai ça, quand on était gamin. Il fallait arriver tout beau, je me souviens de ça.
Ouais.
C'est encore le cas?
Ma mère, elle était beau, ça. Elle était bien coiffée, elle était au coiffeur hier et tout ça. C'était
ah, beau gosse, le Wissem.
Le fait de faire plaisir aux enfants, c'est faire plaisir à nous.
Faire plaisir aux enfants et faire plaisir à vous, vous les parents. Ouais. C'est bien dit.
Ouais.
Eh bien, merci Warda d'être passée à l'antenne.
Merci.
J'ai l'impression que c'est une maman très émue. Elle est contente.
Ah, c'est gentil, merci.
Allez,
j'ai
bon courage.
Deux enfants. C'est tout pour eux. Hein.
Bah, on leur a compris. On leur a compris que tout tourne autour d'eux.
Ouais. Aussi, mon fils Hussein, il est handicapé moteur.
Eh bien, écoutez.
En fait, dites-moi.
Je vous souhaite justement bon courage et bon courage à votre fils.
Merci, merci beaucoup.
Merci Warda.
Merci, bonne fin de journée, au revoir.
Au revoir et au plaisir de vous entendre. Tiens, Sarah, bonsoir Sarah. Vous nous appelez de quelle ville, Sarah?
Bonsoir, de Montpellier.
Montpellier, la ville que je chéris.
Oui.
J'aime bien cette ville, moi, Montpellier.
C'est
vrai?
Pourquoi?
Parce que j'ai fait mes études à Montpellier, tout simplement.
Ah, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'étudiants.
Il y a beaucoup d'étudiants, hein, une grosse communauté d'étudiants à Montpellier.
C'est vrai. Beaucoup,
la rue Jean Jaurès, si ça vous parle.
Oui.
C'est là où je retrouvais justement tous mes camarades de classe.
Oui.
Bref, Sarah, comment vous avez vécu, vous, mère de famille, la rentrée scolaire ce matin?
La galère. Bah, pas ce matin, parce que moi, mes enfants, ils sont au collège. Ça sera demain.
Oui, demain? Pourquoi? Parce qu'ils sont au collège, alors?
Oui, les deux, ils sont au collège, j'en ai deux.
En troisième, non? En quatrième ou troisième?
Troisième et quatrième.
Ah, voilà, c'est ça. Troisième et quatrième, c'est demain.
Oui.
Ouais.
Oui, c'est demain.
Et comment vous appréhendez?
Un peu.
Ouais.
Un peu.
Est-ce que vous êtes comme Warda? Vous avez tout acheté pour votre enfant?
Eh ben, écoute, quand ils sont au collège, ils sont grands, on est obligés, quoi.
Ouais. En plus, ils coûtent cher. Ils veulent des habits de marque. Donc, tu m'achètes ça. En plus, ils sont exigeants en quatrième et en troisième. Hein.
Ah oui, la paire à 170 euros, je l'ai payée avant-hier. L'ensemble, 90 euros.
J'adore. Et donc, ouais. Vous êtes prêts à vous surendetter, j'ai bien compris. Hein.
Ben. Je suis prête, mais comme je vous ai dit, on est obligé.
Ouais, obligé
si
carrément.
Pas,
donc ça veut dire, même si vous explosez votre budget, c'est pas grave.
Pas explosé, mais moi, alhamdoulilah, je travaille, je suis en bonne santé, du coup, si je peux, oui, mais après, il y a des gens qui peuvent pas, quoi.
Vous savez que les ados coûtent cher, hein. Je vous le dis, hein.
Très très cher.
Ah,
et après,
les ados coûtent cher.
Entre
les habits, entre le portable,
entre
les fournitures scolaires, entre les repas, entre les sorties avec les copains, eh bien, bon courage, Sarah.
Ah, il me le faut, parce que c'est vraiment c'est trop. La prime de la CAF,
ça suffit pas.
Ah non.
Elle couvre même pas les frais de fournitures scolaires.
Voilà. Après, on n'attend pas que ça, mais bon.
Ouais. Ouais.
Heureusement, j'en ai pas 4 ou 5.
Exactement, vous avez raison, Sarah. Et heureusement. Oui. Ben, Sarah à Montpellier, bonne rentrée pour votre fils demain. Ouais.
Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir de vous parler. Bon courage, bonne soirée.
Plaisir partagé, restez fidèles.
À la prochaine, merci beaucoup.
Eh ben, quotidiennement, nous sommes là, les informés. 18h, 19h30, avec vous. Merci Sarah, 01 53 48 3000. Vous continuez à nous appeler pour nous dire comment s'est déroulée cette rentrée et surtout notamment, est-ce que vous faites partie des 54% des personnes, des parents justement, qui livrent tout, qui achètent tout, fourniture scolaire, habillement, tout, la totale, sans réfléchir ni calculer son budget. Est-ce que vous faites partie de ces 54%? 01 53 48 3000, je vous attends toujours au standard, justement. L'heure, pour l'heure, 18h30, c'est le Quoi de Neuf avec le grand Pascal Boniface. C'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec le directeur, le fondateur de l'Eris. Bonjour, mon cher Pascal Boniface.
Bonjour, Adil, et bonjour à tous.
Mon cher Pascal Boniface, je vous souhaite une belle reprise, belle rentrée, mais surtout, vous avez décidé de consacrer pour cette rentrée, eh bien, un billet d'humeur, un édito consacré à la guerre d'Ukraine. Jusqu'à quand? À vous la parole.
Jusqu'à quand? Bah, pour un certain temps, parce que cette guerre va durer très malheureusement. Comment se terminent les guerres? Soit quand il y a un vainqueur, un pays gagne, il impose à l'autre ses conditions, et là, pour le moment, ni l'Ukraine, ni la Russie ne sont capables d'imposer leurs conditions à l'autre. On peut aussi terminer une guerre par l'épuisement des combattants. Rappelez-vous, la guerre Iran-Irak de 80-88, elle se termine parce que les deux pays sont épuisés. Mais là, ils sont très frappés, mais ils ont encore des hommes, des armes, et ils veulent continuer. Est-ce qu'il peut y avoir une médiation internationale? On ne voit pas qui pourrait servir de médiateur. La Turquie a réussi un assez joli coup en mettant un accord sur l'exportation de céréales. Mais un accord de paix, les deux pays n'en veulent pas. Donc, malheureusement, cher Adil, la seule réponse qui puisse être tenue, c'est que la guerre va durer et qu'il y a deux options. Elle continue ainsi, une guerre quand même d'assez grande intensité, mais elle peut devenir encore plus terrible. Elle peut encore s'intensifier en intensité avec encore plus de frappes sur les civils, encore plus d'habitations détruites. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très inquiétant. Pour la Russie, c'est quoi une victoire? Ben, ça serait aller jusqu'à Kiev, c'est terminé, ils savent que c'est pas possible. Donc ils vont essayer de garder un peu les territoires qu'ils ont conquis depuis le 15 février. Pour l'Ukraine, la victoire, c'est est-ce que c'est reconquérir les territoires perdus depuis le 24 février ou, pour certains, et Zelensky lui-même l'a dit récemment, reconquérir les territoires perdus en 2014, dont la Crimée. Et là, d'ailleurs, on peut noter, hein, c'est que quand la Crimée a été annexée, on a fait des sanctions, alors que les habitants de Crimée voulaient bien être allés, enfin, ils se ressentent plus russes qu'ukrainiens. Il y a dans d'autres cas des territoires annexés, on a varié de sanctions. Enfin, c'est une parenthèse. Et donc là, on voit bien qu'on est solidaire de la Crimée, de l'Ukraine, pardon. Le président Macron l'a encore rappelé dans son discours devant les ambassadrices et ambassadeurs ce matin. Mais la question qu'il faudrait savoir, c'est jusqu'où on est solidaire? Est-ce qu'on est d'accord pour aller jusqu'à reconquérir la Crimée? Ou est-ce qu'on soutient l'Ukraine pour reconquérir les territoires perdus depuis le 24 février, depuis le début de cette guerre? Et là, il y a une ambiguïté qu'il faudra lever, sinon on risque encore plus, de faire durer la guerre. Il faut être solidaire de l'Ukraine, mais si nous sommes solidaires de l'Ukraine, il faut aussi avoir un dialogue net et ouvert avec les Ukrainiens pour savoir jusqu'où veulent-ils mener la guerre?
C'est la grande question, effectivement, et vous avez raison de la soulever. Merci pour cette analyse géopolitique, mon cher Pascal Boniface. À la semaine prochaine, sans faute.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir, partagé, Pascal Boniface, le fondateur directeur de l'Eris. On fait la pause et on se retrouve tout de suite après, notamment avec le face-à-face, Ibouba, mais notamment Aminsa, le face-à-face avec trois sujets d'actualité qui auront notre attention, mais surtout vous aussi au 01 53 48 3000, je vous attends partout en France, venir nous raconter comment vous avez vécu cette rentrée scolaire avec vos enfants. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
Et si vous venez de nous retrouver, sachez-le, il est 18h41 précisément. Et c'est ici que ça se passe. Notez-le. 18h, tout nouvel horaire, nouveau créneau. 18h, 19h30, je ne cesserai de le dire parce que c'est la rentrée scolaire. Et beaucoup d'entre vous, évidemment, ils étaient habitués aux 19-20h. Désormais, on commence un peu plus tôt pour enrichir justement, vous enrichir en informations, en commentaires, en analyses, en décryptage. Vous le savez. Alors, mesdames et messieurs, je vais continuer d'accueillir nos auditeurs pour la rentrée scolaire. 01 53 48 3000, vous continuez de nous appeler. Je vais juste accueillir, dire bonjour avant d'accueillir Saba de Limoges. Ibouba, bonjour Ibouba, le face-à-face.
Bonjour à tout le monde.
Attends, on va ouvrir ton micro parce que c'est vrai qu'il n'est pas ouvert. Il est ouvert ? Oui, bonjour Ibouba.
Bonjour, bonjour Adil Farkhan, bonjour aux auditeurs donc, de la mer des radios
Barafi. Aïe, 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 c'est ton anniversaire. C'est joyeux anniversaire Ibouba.
Ah,
joyeux anniversaire Ibouba. Joyeux anniversaire Ibouba. Voilà, bon anniversaire Ibouba, c'était beaucoup, un grand merci, jour pour merci. Toi aujourd'hui. Bravo, bravo, le frangin Ibouba. Aminsa, bonjour.
Bonjour Adil Farkhan.
Alors Ibouba qui est journaliste et puis on a notre acteur politique. Comment ça va notre élu de la Courneuve ?
Mais écoute, tout va bien, on rentre des vacances, c'est la rentrée, il fait encore beau, donc tout va bien.
Je vous donnerai la parole dans une poignée de secondes justement pour parler de la rentrée scolaire, de l'inflation, de la pénurie de professeurs, bref de tout. Mais Saba nous appelle du Limoges. Saba, bonjour Saba.
Bonjour.
Comment ça va ma chère Saba ?
Ça va bien, bon. Merci.
Comment s'est déroulée cette rentrée avec vos enfants ?
Moi, ça a été les enfants, ils étaient contents de reprendre.
Ouais.
Et moi j'ai une fille qui est en CM2 cette année.
Ouais.
Et j'ai des jumelles qui ont passé au lycée.
Comment ? Ah, le lycée, donc ça veut dire ouais. Elles sont en seconde.
Oui, c'est ça.
Ça se passe bien ?
Ah si, oui, c'est très très bien. J'étais contente ce matin.
Alors, Saba, vous êtes comment ? Vous êtes une mère enthousiaste ou plutôt émue de voir leurs enfants faire leur rentrée scolaire ?
Ah, j'étais émue ce matin.
Ouais, c'est ça, ouais. Vous avez appris... Oui. Alors, c'est qui ? C'est une fille ou un garçon au CM2 ? En CM2, pardon.
C'est une fille.
C'est une fille. Comment elle s'appelle ?
Ouais. Safa.
Safa. Alors, comment vous l'avez... Justement, vous l'avez accompagnée ?
Oui, ce matin, oui. J'avais une heure avant d'aller au travail, je l'ai ramenée, moi, à l'école.
Et alors, elle a dit quoi, Saba ? Elle vous a dit quoi ?
Elle était très, très contente de son prof, il y a les copines, la classe, ouais. Tout. Elle était très contente.
Ouais, les filles, en général, elles sont contentes de reprendre le local. Hein. C'est plutôt les garçons, en général, ils y vont un pas en avant, trois pas en arrière.
Mon fils était très heureux.
Ah, il était heureux ? Bon, ouais, alors, ouais, il fait partie des cadres, vous savez, des cas d'exception.
En même temps, il entrait en CP, c'était un peu magique pour lui.
Ouais, les CP, c'est magique.
Il y avait une attente.
Ouais, c'est la passation, vous savez, c'est le passage, justement, de la maternelle.
Il y a cet aspect, le fait d'aller chez les grands. Quoi.
Ouais. Saba, comme les autres auditeurs, est-ce que vous êtes plié en mille pour le budget ? Ça veut dire que vous n'êtes rien refusé pour vos enfants ?
Oui, je refuse rien. Mais quand je vois que, par exemple, pour les sacs, parce que quand j'achète les sacs, j'achète vraiment des sacs, je mets le prix.
Oui.
Et comme j'avais des jumelles,
oui.
J'achète en double, tout en double.
Ah, ça coûte plus cher.
Ça coûte plus cher, oui.
Ouais.
Et comme ça va, elle a récupéré un sac de l'une des jumelles.
Ah ouais, effectivement, ouais, je comprends. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un sacré budget pour vous cette année.
Ah oui, oui. Ouais. Ah oui. Même pour les affaires scolaires, je regardais qu'est-ce qu'il y a à la maison. Sinon, j'achète. S'il n'y en a pas, j'achète. Hein.
J'ai remarqué dans tous les auditeurs qui nous ont appelés jusqu'ici, vous remarquerez, chers amis débatteurs, qu'ils ne calculent pas. Hein.
Bah, ils visent la réussite de leurs enfants, c'est normal.
Ouais.
Et je crois que tout le monde, la majorité sont dans le même état d'esprit.
Ouais. Vous offrez tout à vos enfants parce que vous attendez d'eux beaucoup, c'est-à-dire l'école et leur réussite.
Ah oui, c'est ça. Oui, c'est...
Bon.
Moi, mes jumelles, quand elles ont eu leur brevet l'année dernière avec mention,
ouais.
J'étais très très contente, ça m'a fait plaisir. Hein.
Bah, j'imagine, ouais.
C'est pas perdu, donc.
Ah, oui.
Non, c'est pas
quand
perdu.
Quand ils réussissent dans les études, on est contents, nous, les parents.
Bah, évidemment, les parents sont contents, quand,
ouais.
Évidemment.
Ouais.
C'est ce qu'on souhaite, hein.
S'il y a un investissement qui doit être fait, c'est celui-là.
C'est l'éducation. Scolaire, notamment.
C'est l'arme la plus puissante.
Eh ben, on souhaite une belle rentrée à vos jumelles et à tous vos enfants.
Merci. Merci. Merci
Saba,
beaucoup.
Merci d'être intervenu.
Merci, bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée, vous continuez de nous appeler au 01 53 48 3000. Alors tout de suite, Ibouba, Aminsa, justement, cette rentrée scolaire, vous savez, c'est un peu compliqué parce qu'on a l'inflation, on a la pénurie de professeurs, on a également ce protocole sanitaire qui revient. On a cette rentrée scolaire notamment avec Emmanuel Macron qui a posté sur les réseaux sociaux ce matin, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux contre le harcèlement scolaire. Bref, tout ça, évidemment, comment doit-on le vivre, Aminsa ?
Bah, c'est une rentrée, c'est vrai, un peu particulière, puisque on s'est arrêté avant les congés d'été avec une situation qui était déjà très difficile s'agissant du pouvoir d'achat et de l'inflation. Et évidemment, bah, après les congés, on revient et puis la situation n'a pas changé, elle s'est même aggravée. On parle même d'une inflation qui pourrait atteindre d'ici le début d'année prochaine les 10%. Alors, on est le pays où...
On est à 7-8% en ce moment.
Ouais, on est un peu en dessous de 7. On est même le pays d'Europe qui résiste le mieux. Alors, c'est sans doute lié à l'ensemble des mesures qui ont été prises. Mais bon, avec l'Allemagne, mais quand on voit l'écart qu'il y a entre ceux qui sont un peu qui subissent l'inflation plus fortement que
l'Italie,
nous, l'inflation,
l'Espagne,
c'est un écart quand même qui est assez limité. Et puis, même s'il y a un ralentissement de l'augmentation des prix, on va quand même vers une augmentation générale et auto-entretenue des prix qui va s'accentuer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et donc, bien que l'ensemble des mesures qui ont été annoncées vont pouvoir... Alors, il y a le chèque alimentaire, il y a la prime de rentrée, il y a la prime de pouvoir d'achat, etc. Mais tout ça va quand même coûter beaucoup d'argent aux contribuables au final, parce que c'est beaucoup d'argent public, mais avec un effet à mon sens qui reste très limité sur le pouvoir d'achat et qui va à mon avis pas freiner cette inflation qui ne dépend pas uniquement des mesures que l'on prend ici sur en France.
Et Bouba, l'état d'esprit effectivement avec cette rentrée scolaire?
Vous savez, cette rentrée scolaire, vraiment, je crois que ça nous a pris de court, c'est vrai, mais les parents ont une page de vie quasiment dénaturée, vous savez. C'est pas du tout évident, surtout, j'ai eu tout à l'heure notre auditeur que j'ai pu écouter avec brio, d'ailleurs, mais aussi avec une stricte attention, puisque j'ai des jumelles aussi. Je sais ce que c'est.
Vous avez aussi des jumelles, comme l'auditrice, là, Sabah.
Donc je sais très bien donc ce que ça veut dire acheter pour des jumelles. Imaginez par exemple vous avez 4 gosses, vous avez 3 gosses, vraiment c'est pas du tout évident. Ce qui paraît bizarre en fait dans cette affaire, les gens, tout le monde a la vue spontanée là-dessus, mais personne ne fait rien, que ce soit l'État, que ce soit les personnes en tant que telles, nous subissons tous.
Même si Aminsa nous parle du chèque alimentaire.
Effectivement.
Vous avez parlé aussi
c'est pas
d'un
la solution,
coup de
c'est pouce. Pas, voilà, exactement. Aujourd'hui, je crois qu'il faut beaucoup plus viser donc les salaires, je dirais mieux, s'il y a une possibilité de le faire. Maintenant, après, les économistes, ils vous diront que, bon, voilà, ipso facto, c'est impossible. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont une page de vie quasiment dénaturée. C'est pas facile. Les gens, ils ont à peine donc de tenir les deux bouts. Si vous êtes un père de famille, il y a les vacances.
Vous êtes en train de nous dire qu'ils vivent pas, ils survivent.
Mais ils survivent. C'est plus que survivre, d'ailleurs.
Ouais.
Je crois que, voilà, c'est à un certain moment donné, je sais pas maintenant ce qu'il faut faire, mais si ça continue comme ça, je ne sais pas où nous allons. Aujourd'hui, c'est la grande question que tous les parents se posent.
Oui, parce que c'est vrai que alors, entre les petites mesures, évidemment, entre les mesures tout court annoncées par le gouvernement, vous le disiez très justement, Aminsa, c'est vrai que ça ne va pas freiner l'inflation. Alors, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains mois? Ça va, le pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on va vivre des moments extrêmement compliqué.
Alors toutes les prévisions économiques tablent sur le fait que les salaires vont augmenter pour plusieurs raisons. D'abord parce que compte tenu du fait de l'inflation, de l'augmentation des prix, c'est imputé finalement sur les quand même un petit peu sur les salaires. Donc il va y avoir une augmentation des salaires qui va de nouveau impacter l'augmentation des prix. Donc on va être dans une espèce de cercle un peu vicieux où l'augmentation des prix ne compensera jamais l'inflation que l'on subit, sachant que l'augmentation des prix, elle vient toujours antérieurement à l'augmentation des salaires. Et donc la situation ne va pas s'arranger dans les semaines et les mois prochains. Alors peut-être qu'on pourrait connaître une amélioration d'après les prévisions qui devraient arriver aux alentours de le second semestre 2023, Mais encore une fois, ça va dépendre aussi du contexte international, de la guerre en Ukraine. Ça va dépendre aussi d'un certain nombre de mécanismes économiques internationaux dont on n'a pas forcément la maîtrise aujourd'hui.
La maîtrise aujourd'hui, justement, on ne l'a pas. Je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. Vous continuez à nous appeler partout en France. Je veux vous entendre vraiment sur comment vous avez vécu la rentrée scolaire avec vos enfants. Comment vous vivez le budget, votre budget, évidemment. Est-ce que vous faites partie de comme celles et ceux qui nous ont appelés, qui nous ont dit oui, effectivement, on ne calcule pas, on ne compte pas, on est prêt à tout offrir, habits, fournitures scolaires, justement pour la réussite de leurs enfants.
Au détriment parfois.
Des dépenses. Hein. Exactement, au détriment des dépenses, ouais, effectivement. C'est ce que disaient certaines mamans de famille là tout à l'heure. Je travaille pour ça. Vous vous rendez compte? Alors, est-ce que vous faites partie aussi de ces mamans et de ces papas, justement, qui se plient en mille pour offrir à leurs enfants tout, tout? Parce qu'ils attendent d'eux justement une réussite. Ibouba ?
Oui. Vous savez, ce n'est pas du tout évident, franchement, Adil Farkan, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on pourra trouver comme solution pour pouvoir pallier à ce problème-là. Mmh. On ne pourra pas dire que c'est naturel, mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas croiser les états d'esprit, essayer de cogiter un tout petit peu, d'accoucher et de voir comment est-ce que ce problème d'inflation-là, on pourra le tirer des filets. Puisque ça pose un problème, ça pose énormément de problèmes.
Ah bah ça, c'est mon conclusion.
Énormément de familles sont à la dérive aujourd'hui. Ce qu'on vivait il y a à peu près 5 ans, aujourd'hui on ne le vit plus. Si vous avez une famille, donc tout est rétréci, les vêtements, même à manger. Quand vous suivez certains reportages, par exemple, que vous voyez les grandes personnes qui disent que bon, maintenant, quand je rentre dans un magasin, les retraités surtout, je veux parler donc de cette population-là qui est qu'au-dessous donc du palier, puisque franchement, c'est à eux que cette inflation-là succombe surtout. Donc, ce sont eux qui vivent vraiment la réalité, la vraie vie amère. Ce sont eux qui la vivent. Et je crois que c'est un problème. C'est un problème qui est lancinant, mais c'est un problème qui doit être traité avec une certaine acuité. Mais qui va traiter? Je crois que c'est l'État.
On lance la pub justement. On lance la pub et on se retrouve tout de suite après. On va continuer de parler de l'inflation, puisque évidemment, hein, on parlera de cette fameuse ristourne à la pompe. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est un bon signal ou pas du tout? Et on parlera aussi, vous savez quoi, des Ouïghours, la persécution donc des Ouïghours. Et on parlera aussi de la fuite de l'imam Hassan Iqoussen, parce que ça aussi, ça fait l'actualité. 01 53 48 3000, on vous attend juste après la pub. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h56, 01 53 48 3000, le face-à-face continue, jingle.
Ah, les informés, le face-à-face.
Je kiffe prendre de court le réalisateur. Je kiffe, c'est un peu mon délire. Ouais, j'aime bien Tarek, ouais, c'est ça. Il faut être au taquet, hein. Comment il faut être au taquet? C'est ça Tarek. Qu'est-ce que tu disais, Tarek?
Le face-à-face, on parlait
d'hier. Ah, c'est ça, exactement. Bon, messieurs, carburant. On va parler du carburant, c'est aussi un sujet de société. Ben, alors, paraît-il qu'on est en plein dedans. C'est la ristourne. Bon, est-ce que c'est bon ou pas bon?
Bah, ça commence aujourd'hui. Alors oui, c'est bon, mais encore une fois, ça rejoint tous les sujets qu'on a abordés précédemment.
C'est bon.
Encore une fois, c'est
pas un peu trop tard. Ça arrive pas un peu trop tard.
Ça va coûter de l'argent. Ça va coûter beaucoup d'argent. Oui, bah, sur
ça va arrive... coûter beaucoup d'argent. Alors, à qui? Aux contribuables.
Bah, ça va coûter beaucoup d'argent en partie aux contribuables. Oui, bien sûr. Parce que il y a une partie des ristournes qui sont assumées par certaines grandes entités comme Total, etc. Mais il y a des choses qui vont être prises en charge par l'État. Donc on irait jusqu'à 30 centimes de ristourne pour essayer d'amener en gros le litre aux alentours de 1,50 €. Oui, ça va coûter de l'argent et puis surtout c'est temporaire, ça va durer que jusqu'à la fin d'année 2022. On ne sait pas de quoi sera fait la suite. Et ce qui est dommage, c'est que encore une fois, là où, alors peut-être qu'on aura le débat, mais ces derniers temps, on entend parler de la taxation des super profits. Je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder davantage que de dépenses publiques supplémentaires, même s'il en faut, notamment pour revaloriser les minima sociaux, notamment pour opérer un certain nombre d'augmentations. Mais je crois qu'il y a la question qu'il faut se poser aujourd'hui pour permettre notamment de dégager des marges de manœuvre et faire face à ces difficultés que l'on connaît, c'est la taxation des super profits rapidement. Il faut aller vers ça. Je crois qu'il y a une majorité dans le pays, dans l'opinion. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour l'OAT. Donc, je vois pas la difficulté à aller dans ce sens.
Et Bouba, la ristourne à la pompe, ça suffit ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Vous savez très bien.
Ça va coûter cher, comme il dit. Mais c'est vrai qu'on a tendance à. Ça va coûter très cher, cette histoire-là.
Très cher. Comme la plupart des mesures, d'ailleurs.
Ouais. Non, mais oui, absolument. Donc, je ne sais pas franchement où on va, mais aujourd'hui, plus d'un est inquiet.
Oui, viens dans le micro.
Farkan, plus d'un est inquiet aujourd'hui, puisque c'est hallucinant, en fait, en quelque sorte. Donc, le matin, vous vous réveillez, vous dites que ma vie, elle doit être améliorée, je dois vivre vraiment une vie paisible. Mais en fin de compte, vous avez quasiment une vie quasiment dénaturée. En fait, donc vous êtes dans votre quotidien, vous pensez au lendemain. Si aujourd'hui la résolution est là, vous pensez à savoir comment est-ce que demain sera. Et ça, c'est le grand problème donc de toute la communauté aujourd'hui. Hein. Les gens aujourd'hui, donc ils ne savent plus comment plutôt joindre donc les deux bouts. Ça pose un problème. Maintenant, est-ce que ça ne va pas être une réprime totale ou bien je sais pas une révolte totale, parce que si ça continue comme ça, écoutez, les gens ils sortiront dehors et ils vont se faire voir. Mmh. Et parce que là franchement, si l'État ne fait pas quelque chose, on ne peut s'adresser qu'à l'État en ce moment.
C'est notre. Bah, l'État, elle bouge en tout cas. Elle essaie de donner quelques signaux ici et là, hein, en tout cas.
Ouais,
voilà.
Mais bon, j'imagine les gilets verts, les gilets jaunes qui.
Peut-être les gilets verts cette année.
Peut-être
les gilets verts qui vont venir bientôt donc s'affranchir, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils en ont marre. La vie, elle est excessivement chère.
Eh bien, je vais attendre les auditeurs pour nous dire s'ils trouvent que la vie est excessivement chère, justement. 01 53 48 3000, je vous attends au standard pour nous dire si vous trouvez que la vie coûte de plus en plus cher. Tout de suite, au standard. Le standard est ouvert. Je vous attends, partout en France. Amine Ibouba, Amine Saha, autre sujet, toujours introuvable. Vous savez de qui je parle ? De l'imam.
Hassani Koussen,
justement. Depuis la validation de son arrêté d'expulsion, le conférencier avait mis justement les voiles, paraît-il, en Belgique. Alors, le fils, son fils, s'est prononcé en disant « Mon père en Belgique, ça m'étonnerait ». Alors, est-ce que c'est mieux qu'il soit en Belgique, Amine Saha ?
Je sais pas ce qui est mieux pour lui, j'en sais rien. En tout cas, je suis toujours un peu...
Quelle interprétation doit-on avoir de cette fuite de l'imam Koussen ?
Alors j'en sais rien, franchement je suis pas dans sa tête, donc j'aurais du mal à mettre dans son état d'esprit. Oui, la manière dont a été gérée cette affaire pose quand même un certain nombre de questions. On lui reproche des propos qui auraient été tenus
il y a
20 ans même parfois. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi avant ? C'est une question qu'on peut se poser légitimement. Les liens qu'il a notamment avec le ministre de l'Intérieur posent un certain nombre de questions. Enfin voilà, tout ça nous mène quand même.
Quand vous dites les liens, vous faites référence à quoi ?
Bah, on parle de liens entre lui et le ministre en 2014, notamment au moment des élections municipales auxquelles était candidat Monsieur Darmanin à Tourcoing, je crois.
C'est ça.
Donc tout ça quand même pose question à l'opinion, et donc il faut qu'on choisit de médiatiser autant cette affaire, parce que des gens qui sont expulsés pour tout un tas de sujets, il y en a d'autres. Hein. Et par ailleurs, il s'est passé quand même une chose depuis que cette affaire est fortement médiatisée, et depuis que le ministre de l'Intérieur s'en est saisi, c'est que cet imam, il connaît une visibilité et un affichage encore plus important, et donc potentiellement une audience. Donc ce que je comprends pas, c'est que si on lui fait tant de reproches, pourquoi en faire un martyr, et pourquoi l'amener à être encore plus visible qu'il ne l'était avant? C'est j'ai l'impression qu'il y a une forme, enfin c'est contre-productif, parce que enfin tout ça pose quand même question, et je trouve dommage que ce type de d'actualité soit traité avec et qui enfin prenne autant de place dans les médias. C'est regrettable. Il y a des tas de sujets, on parlait tout à l'heure notamment du pouvoir d'achat, des difficultés de la rentrée, on va parler d'autres sujets, mais voilà, je trouve que celui-là, alors c'est pas pour faire un reproche ici sur ce plateau, mais dans les médias on en a entendu parler depuis pratiquement
plusieurs semaines maintenant,
enfin depuis que l'affaire a commencé, même plusieurs semaines, et je trouve que ça n'apporte pas grand-chose finalement dans le débat public aujourd'hui.
Et Bouba, et l'affaire donc justement de la fuite de l'imam Hassan Ekoussen.
Moi, je suis pris de court parce que effectivement, ce que mon collègue vient de dire est tout à fait avéré. Aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions.
Bien dans le micro.
Aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions, à savoir le pourquoi et le comment des choses. C'est vrai que cette affaire est vraiment médiatisée. Quand on se plie un tout petit peu sur l'histoire même donc de cet imam qui est né ici en France et qui a des
origines dans le Nord,
et qui a des origines marocaines, qui n'a jamais voulu prendre la nationalité marocaine d'ailleurs, ni française. Non, plutôt, il a pris la nationalité marocaine.
Il est marocain, voilà. Il n'est pas français.
Voilà, il est marocain, il n'est pas français. Voilà, il n'a jamais voulu prendre donc la nationalité
française.
Française. Je crois que je me pose deux questions, à savoir, est-ce que c'est parce qu'il est imam qui a ce problème, ou bien est-ce que c'est parce que il a refusé de prendre la nationalité française et qu'aujourd'hui il revendique avec un cri alarmant donc cette appartenance de l'autre côté, c'est-à-dire que marocaine et autres. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose aussi, il paraît que l'État marocain n'est pas aussi prêt, effectivement, à accueillir ce monsieur.
Tout à fait. Il a suspendu le laissez-passer consulaire.
Ils sont dans le droit. Mais non, moi,
et par ailleurs, ils mettent en cause les autorités françaises.
Mais
leur déclaration.
Mais je crois que...
Ce qui doit nous interroger aussi.
Les autorités marocaines. Voilà. Oui, absolument.
Les autorités marocaines se posent des questions. Donc, comme on se pose aussi des questions, est-ce qu'il n'y aura pas une autre façon quand même de traiter des problèmes comme ça ? Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la société française, elle est singularisée. Et les gens, ils ont une autre vision donc, de la politique française. C'est vrai que, bon, voilà, nous sommes en train de vivre des moments très durs avec ces moments qui sont un peu peints par le terrorisme, etc. Et donc, il faudra effectivement remuer la langue cette fois pour effectivement ne pas emporter la masse avec soi. On peut comprendre tout cela. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon quand même de pouvoir régler la situation, des situations pareilles ?
Vous êtes en train de me dire, vous, en gros, on en fait trop.
On en fait trop.
Vraiment ?
Enfin, beaucoup trop.
Pour moi, à ma vision spontanée des choses, je
Ça amène d'autres sujets, notamment toutes ces interrogations que les gens se posent. Ça amène d'autres sujets, à savoir pourquoi lui, pourquoi il y a ce traitement-là, alors que il y en a d'autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça amène d'autres débats avec lesquels on essaye de rompre également depuis un certain nombre de mois et depuis l'élection présidentielle notamment. Mais je trouve qu'on en fait beaucoup trop sur cette affaire et j'espère qu'on va rapidement passer à autre chose parce que c'est vraiment dommage parce que des gens qui sont expulsés parce qu'ils tiennent des propos, d'ailleurs moi je rentre pas dans le fond du sujet puisque j'ai pas été vérifier quel propos il a tenu il y a 20 ans, il y a 10 ans, enfin franchement j'ai pas de temps à perdre là-dessus, mais ce que je veux dire c'est que clairement s'il y a eu une faute, d'abord procéder à des enquêtes, peut-être aller jusqu'à des condamnations si nécessaire. Mais voilà, il y a un lien notamment qui a été fait entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. C'est notamment ce que pointent les autorités marocaines qui posent aussi question. Donc voilà. Je sais pas comment cette affaire va aboutir, mais j'espère qu'elle va aboutir vite.
Qu'elle va aboutir vite. En tout cas, ici, sur les ondes de Beurre FM, dans les informants, on continue d'en parler. Si vous souhaitez évidemment vous exprimer, le standard est ouvert sur l'affaire de la fuite de l'imam Hassan Ekoussen. A-t-il eu raison, justement, de fuir le pays, de quitter le pays, de quitter la France? Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait? 01 53 48 3000. Je vous attends tout de suite. Allez vous saisir de votre portable ou de votre combiné de téléphone et je vous attends parce que je voudrais vous entendre nous dire, est-ce qu'il finalement, le conférencier, l'imam Hassan Ekoussen, a eu raison de fuir la France, de quitter le territoire français? Parce que on lui a demandé. Après, moi j'ai entendu un autre son de cloche. C'est que certains de ses sympathisants ont dit clairement, on lui a demandé de quitter le territoire. Donc il a quitté le territoire. Amine,
oui, on peut l'entendre comme ça également. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas d'abord si rien n'est avéré.
Mais non, mais j'ai entendu ça, moi.
Est-ce qu'il a véritablement quitté le territoire?
Personne ne le sait. Personne ne le sait. Vous nous appelez du 93. Quelle ville du 93, mon cher Amine?
Noisy-le-Grand.
Bonjour, Amine.
Bonjour.
Comment ça va, mon cher Amine?
Ça va, alhamdoulilah. Et vous, ça va?
Ça va. Je vous remercie infiniment. Vous avez des enfants? Vous avez fait la rentrée de vos enfants?
Non, moi, la rentrée, c'est que le 7.
Le 7. Bon, vous avez un peu le temps.
Le 7 septembre, ça va.
Vous souhaitez vous exprimer sur l'affaire de l'imam conférencier Hassan Ikoussen?
Ah oui, c'est vraiment du n'importe quoi, je pense.
Oui.
Là, je pense que le gouvernement, ils sont vraiment à la ramasse.
Ah oui?
Sans vouloir les critiquer, hein, c'est pas du tout le but. Cet imam, c'est plus un conférencier, c'est même pas un imam déjà, c'est un conférencier, et tout ce qu'il fait sur Internet, c'est même valorisant pour l'État, en fin de compte. Parce que quand on prend le fond de ce qu'il dit, il fait même le jeu un peu de l'État, d'un islam à la française, l'islam de France, avec voilà, pour vivre avec tout ce qui est interdit dans l'islam, il faut vivre avec. Et là, ce qu'ils font, je pense que c'est vraiment n'importe quoi. En fait, ils l'ont laissé monter, et là ils sont en train de retirer la carte Hassan pour mettre un doute, c'est tout. C'est un peu
pourquoi vous est-ce que vous pensez à Amine qui dérange?
Je pense qu'il dérange pas, ils se servent de lui comme ils se servent de tous les imams 2.0 et tous ceux qui vont dans le sens où ils parlent de juste un exemple, quand vous prenez tout ce qu'il dit, l'imam, moi j'ai rien contre lui, hein, je pense qu'il parle bien, il devrait mieux se servir de son éloquence en parlant vraiment de l'islam authentique. À l'heure actuelle, ce qu'il dit, tout ce qu'il a dit lui, il se sert un peu de l'islam pour faire un peu une carrière. Et ça c'est pas logique. Mentir aux musulmans et aux non-musulmans, c'est pas logique. Et dans tout ce qu'il dit, on peut vérifier. Hein,
vous le suivez régulièrement?
Non, je le suis pas. Sérieusement, je le suis pas. Je l'ai écouté quelques fois. Quand j'ai vérifié ce qu'il disait sur beaucoup de points où elle parle de fraternité avec les autres religions, c'est un peu comme un Rachid Eljaï et tout ça.
Oui.
C'est des gens, ils ont une belle éloquence, sauf que cependant, c'est pas l'islam. C'est pas de religion. Quand vous avez quelqu'un, c'est comme Tariq Oubrou, et ça, sans vouloir les critiquer, moi j'ai rien du tout contre ces personnages. J'aimerais même qu'ils fassent vraiment le job d'un imam. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ils critiquent les savants musulmans, et en plus de ça, ils induisent en erreur les musulmans, surtout les musulmans, parce que c'est surtout le voile, il faut le retirer un peu, il ne faut pas mettre le voile, vous pouvez choisir de ne pas le mettre, et ainsi de suite. Tout ça, c'est interdit après chacun, mais comme il veut, sans vouloir critiquer ou juger les sœurs qui veulent mettre ou pas mettre le voile, c'est pas ça, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Mais je pense que l'islam, il est authentique, on ne peut pas le dénaturer, on ne peut pas le changer. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'on va prendre, il fait un jeu, et là, l'État est en train de le lâcher, comme lui, comme beaucoup d'autres avant lui, hein, il n'y a pas que lui. Hein. C'est comme ça. Vous allez voir que Charles Goumi, d'ici quelques années aussi, vont le lâcher. Hein. Alors que Charles Goumi, c'est vraiment flagrant, il joue avec les musulmans, c'est tout. Et je pense qu'il n'aurait pas dû se sauver, un musulman ne se sauve pas, il n'a pas besoin de se sauver.
Il n'aurait pas dû se sauver.
Il n'aurait pas dû se sauver. Un musulman ne fait pas ça. Vous savez, un musulman, nous, c'est moi, ce que je pense que ce que les savants se disent, c'est simple. C'est si le prophète, il aurait fait ça.
Ouais.
Il n'aurait pas fait ça. Automatiquement, vous avez une partie de la vérité sans même être un grand savant ou sans faire de grands discours. Parce que c'est pas du tout le but, c'est pas du tout de casser les musulmans ou de dire ou de disperser pendant les musulmans. C'est pas ça. On doit se rassembler. À l'heure actuelle, on devrait même se conférer et d'avoir une seule voix. Mais ça, on peut le faire que sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah.
Mm-hmm.
Pas en suivant chacun chante comme il veut, ou plutôt dit ce qu'il veut. Sans vouloir critiquer ceux qui le font. Moi, je ne cherche pas à les critiquer, hein, c'est pas ça. Mais c'est sur ce point-là, je pense que l'État l'a laissé monter, et là, ils sont en train de le taper dessus, c'est tout. C'est parce que le gouvernement français, ils sont en train de jouer avec des musulmans. Comme d'habitude, hein, ils nous sortent une carte à chaque fois de terroriste, de quelqu'un qui dit, qui parle contre la République. Mais quand vous écoutez ce qu'il dit, il est pour la République. Il est pour un athéisme. Il est pour que les musulmans soient pas musulmans, que vous prenez le fond de ce qu'il dit.
Oui.
Moi, je veux dire, écoutez ce qu'il dit, vous allez voir, hein, c'est pas, C'est pas moi, je cherche pas à le critiquer ou à le rabaisser. Non, il a une très belle éloquence et je pense qu'il devrait se servir de cette éloquence-là pour rassembler les musulmans. Et non faire du buzz, tout ça, pour l'argent. Parce que quand vous prenez, c'est pour tout ça, c'est une question d'argent. C'est une autorité, une question d'argent. Sa chaîne YouTube doit lui rapporter de l'argent. Et pour faire des conférences, c'est de l'argent. Et il y en a beaucoup comme ça, des imams. Vous savez, le prophète Assassinem, eh ben, il ne faisait pas des conférences pour de l'argent. Les compagnons ne faisaient pas des conférences pour de l'argent. Automatiquement, quand vous en avez un qui fait des conférences pour de l'argent, pas parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'ils veulent s'enrichir. Ça, c'est, voilà, c'est le béaba de ne pas les suivre, c'est tout.
Oui.
C'est jusqu'ici en France, ils amènent au faire du cinéma de l'islam de France. Ça ne fonctionne pas, de toute façon. Plus le gouvernement français veut taper les musulmans, plus être converti. Enfin, moi, ce que je vois dans ma vie de tous les jours, je vois de plus en plus de musulmans. Mmh. Alors, actuellement, on est en moyenne au moins 20 millions de musulmans. Ils sont encore là à nous sortir des 4 millions. C'est-à-dire, l'État français ne fait pas son duel de sécurité. Parce que quand les Français vont dans les pays musulmans, ils sont en sécurité.
Bon. Eh bien, Amine, merci pour votre intervention. Merci.
Je vous remercie, en tout cas, bon courage à vous et à très bientôt.
À très bientôt. Vous le savez, de façon très libre, hein, en toute liberté d'expression, évidemment dans le cadre. Amine, ça, avant de parler de la persécution des Ouïghours.
Oui, très rapidement. Moi, je voulais réagir à ce que vient de dire Amine. Il a
rapidement, parce que je dois lancer la pub.
Moi, je veux pas commenter le fond des propos de Monsieur Kuissen. Ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même depuis de longues années, on appelle de nos voeux un islam de France. Les autorités n'ont cessé de répéter ça à longueur de journée. Aujourd'hui, il y a un islam de France qui semble prendre forme, notamment avec un certain nombre de prédicateurs, d'imams, de conférenciers, etc. Et donc, oui, parfois, ils ne sont pas toujours d'accord. Parfois, ils disent des choses qui peuvent être contradictoires. Parfois, ils dérapent même, ça peut arriver. Oui, c'est comme ça que se construit une religion dans ce pays. Enfin, en tout cas, le débat autour de cette religion dans ce pays. Et il faut, à mon avis, y voir plutôt quelque chose de positif. Et évidemment, quand les propos sont déplacés et condamnables, bah, c'est la loi qui doit prendre le dessus.
Qui agit, absolument. 19h15, je lance la pub et on se retrouvera tout de suite après la pub justement pour parler de notre dernier sujet. Avec notamment les Ouïghours, l'ONU reconnaît enfin les crimes de masse commis par la Chine. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et notamment avec le face-à-face Ibouba, journaliste avec Amine Saha, acteur politique et élu sur la ville de la Courneuve. Vous aussi au 01-53-48-3000. Je traite de ce dernier sujet avant de retrouver Karim Zeribi et le teaser attendu pour l'émission des engagés demain de 10h à 12h. Les Ouïghours, l'ONU reconnaît enfin les crimes de masse commis par la Chine. Alors messieurs, justement, ça arrive à moment, évidemment, où l'actualité géopolitique est dense, riche, en dépit de l'énorme pression exercée par Pékin. Alors, l'ONU a finalement publié son rapport, qui était très, très attendu, sur les violations des droits de l'homme, notamment, dans la région chinoise. Amine Saha.
Oui, un rapport très attendu.
Et puis des crimes contre l'humanité, tout simplement.
Oui, un rapport très attendu, et notamment suite à des pressions à la fois de la part des États-Unis, mais d'un certain nombre de nations européennes, qui voyait déjà depuis un certain temps d'un mauvais œil la situation des Ouïghours en Chine. D'ailleurs, en France, on a voté une résolution au mois de janvier dernier à l'Assemblée nationale pour reconnaître, on est allé jusqu'à reconnaître, enfin l'Assemblée nationale, pas le gouvernement, mais l'Assemblée nationale avait reconnu que c'était un crime contre l'humanité, un génocide. Donc le gouvernement français avait refusé d'aller jusque-là en qualifiant que c'était évidemment qu'il y avait un certain nombre de d'exactions. On parle de violences sexuelles, on parle de travail forcé,
on parle de torture,
de stérilisation forcée notamment. Donc oui, la situation des Ouïghours en Chine est particulièrement préoccupante.
Et Bouba.
Ouais, une situation catastrophique.
Dans le micro, vous avez les vides pourtant.
Une situation catastrophique, lamentable. Et qui ne mérite pas vraiment donc tout ce que l'on voit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui est important et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que nous entendons la voix de l'international, en fait, qui est en train de plaider pour la bonne cause donc de ces Ouïghours, qui aujourd'hui aussi sont en train de vivre. Ils ont plutôt une vie quasiment monotone, une vie donc d'esclave à l'état naturel, si vous voulez.
Il y a eu des pressions de Pékin quand même, hein, messieurs. Pékin a émis des pressions pour pas que le rapport soit
publié. Il y a eu des pressions pour empêcher.
Et finalement, il a été publié in extremis.
Oui, on fait ça un jeu de pression de part et d'autre.
Oui, mais maintenant, donc, c'est fini. Le monde entier est au courant. Je crois que c'est une dictature aussi, la Chine. Il faudra le noter. Et que ces gens-là, il n'y a pas que les Ouïghours, puisque il y a encore donc, toutes ces minorités qui sont aujourd'hui en Chine, ils vivent les mêmes problèmes. Nous avons eu donc le problème des Mongols aussi, je crois que c'était la même chose. Lorsqu'ils ont voulu quand même faire apprendre donc à leur communauté le langage mongol en Chine, donc ils ont été bastonnés et puis bon voilà.
Bon, messieurs, vous savez qu'on parle plus dans des camps, hein. 1 million de personnes, majoritairement des Ouïghours. On parle de stérilisation, vous l'avez dit Amine vous-même, avortement forcé, oui, mais également aussi d'imposer un travail forcé. Terrible tout ça, effectivement, le rapport arrive à un moment où l'actualité est encore plus riche. 19h26, c'est la fin de cette émission, on va accueillir pour parler de l'émission des engagés. Les engagés, c'est incarné par Karim Zeribi. Bonjour Karim Zeribi.
Bonjour Adil.
Comment ça va mon cher ami?
Ça va très bien, merci.
Et alors après la première de la semaine dernière, c'est la seconde édition des Engagés. Tous les vendredis, chers amis auditeurs, à ne pas manquer votre rendez-vous des Engagés, présenté par Karim Zeribi. Demain, à quoi peut-on s'attendre?
Eh bien écoute Adil, c'est la rentrée. Et donc nous allons parler demain dans les Engagés de la rentrée des classes, de la rentrée sociale, de la rentrée politique, avec des invités de tous bords, des enjeux économiques. Donc nous aurons des chefs d'entreprise, nous aurons le secrétaire général de la SCPE qui sera avec nous, et nous aurons des députés de la NUPES, de la majorité présidentielle, et bien sûr la parole aux éditeurs, parce que c'est aussi le concept des engagés sur Beurre FM.
Absolument, donc un programme riche, dense pour demain, que vous nous annoncez.
Dans le débat des engagés qui va plaire, c'est un débat sur l'immigration, abordé à notre manière. L'immigration est-elle une chance ou un problème pour la France? Vous savez, nous, ce que l'on en pense déjà, mais on va donner la parole là aussi à des experts et à nos auditeurs.
C'est votre rendez-vous, les engagés. C'est me semble-t-il, rendez-vous à ne pas manquer demain, de 10h à 12h demain matin.
Merci, Adil.
Ben merci, mon cher ami, frère à Karim Zeribi. À demain, 10h, je vous écoute demain. Je vais t'écouter.
On va tous écouter.
Merci Adil, merci beaucoup.
Rendez-vous ne pas manquer. Merci Karim, on t'embrasse. À très bientôt, à demain 10h justement pour le rendez-vous des engagés tous les vendredis à noter de 10h à 12h. Messieurs, Time Sport, le rendez-vous sportif incarné par Bilal Nenman dans une demi-heure, c'est de 20h à 21h. Le rendez-vous à ne pas manquer aussi également toute l'actualité sportive. Allez, à demain, vous le savez. Avec autant de plaisir, on ne change pas, mais surtout, on ne lâche rien. Merci à Tarek à la réalisation. Merci à vous, Amine Sarr. À bientôt.
Merci à toi, à bientôt.
Merci, Ibouba. Encore bon anniversaire.
Merci,
à bientôt.
Merci, à bientôt.
Et à demain, dès 18h. Et on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.